Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le 13 décembre dernier, le pape François célébrait le 50e anniversaire de son ordination sacerdotale et demandait une fois de plus que l'on prie pour lui, signe de ce lien silencieux et si particulier qui unit prêtres et fidèles. Le prêtre, une figure dont on parle beaucoup en ce moment, mais pas toujours pour le rendre plus proche, plus compréhensible, pardon. Alors qu'est-ce qu'un prêtre? Quel est le sens de cette vie qui intrigue même les plus athées? Quel est leur quotidien? Ce matin, je vous propose une émission simple et fraternelle, une émission directe d'auditeur pour vous, pour eux. Une vie de prêtre, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler autour du plateau, ça tombe bien, deux prêtres. Guillaume Loz, vous êtes prêtre du diocèse de Toulouse, curé de la paroisse Saint-Nicolas et du Sacré-Cœur, et vous avez 8 ans de sacerdoce. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et Jean-Michel Poirier, vous êtes prêtre du diocèse de Montauban, bibliste, enseignant à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales au sein de l'Institut catholique de Toulouse. Et vous avez un petit peu plus, on va dire, de miles au compteur, pour parler de manière simple et fraternelle, puisque vous avez 32 ans de sacerdoce. Bonjour.
Bonjour à tous.
Cette émission, donc, chers auditeurs, au cours de laquelle vous avez la parole, ces fameuses émissions direct auditeur, n'hésitez pas à nous appeler. Deux questions au long de cette émission. La première que je vous poserai, c'est qu'est-ce que vous comprenez du rôle du prêtre, tout simplement? Appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez et la manière dont vous avez compris, si par hasard vous avez réussi à comprendre quel est exactement son rôle. On commencera par cette question et après je vous laisserai poser les questions que vous souhaitez sur leur vie. Tout simplement, un numéro de téléphone 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Qu'avez-vous compris du rôle du prêtre? On va commencer, si je vous propose, par écouter une vidéo, mais dans une vidéo il y a du son, faite par la chaîne de télévision KTO, chaîne catholique du câble, où des prêtres parlent de leur appel et de leur vie. Et ça va nous permettre de rentrer dans le propos de cette émission.
C'était à l'occasion d'une adoration eucharistique.
Ça s'est produit en fait quand j'étais en études.
J'ai ressenti dans la prière un désir de faire quelque chose de très beau et très grand.
Ce qui a été important, ça a été d'approfondir ma vie chrétienne et puis de décider réellement d'être chrétien comme quelque chose qui devait marquer ma vie.
C'était comme si le Seigneur me disait « Ne penses-tu pas que je puisse te combler, moi ?» Et je pense que ma vocation est partie de là.
Mais rapidement, la joie a fait place à une certaine peur. Je voulais entrer tout de suite au séminaire en arrêtant mes études. Mon aumônier m'a aidé à y voir plus clair.
Il m'a encouragé à prendre un peu de distance plus tôt. Il ne suffit pas d'être généreux pour avoir la vocation de prêtre.
Le Seigneur qui me dit « ben, je vais te combler ». Laisse-toi conduire, et puis tout le reste vient par la suite. J'ai pris ma décision. Je savais que effectivement, j'étais appelé à devenir prêtre.
Chaque fois que j'envisageais d'être prêtre, je sentais que c'était vraiment là ma place. Il y a pour moi dans le sacerdoce cet appel radical à une disponibilité et à l'inconnu.
Il y a une toute petite part d'imprévisible qu'il faut toujours accepter.
Il y a une parole qui m'habite plus profondément, c'est Jésus qui dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance ».
La vie en abondance, pour moi, c'est le cœur de la foi.
Voilà, donc cette vidéo de KTO qui dure encore un petit peu, mais qui permet d'introduire le propos qui nous ralentit en ce jour, en ce mercredi matin. Mais c'est tant mieux, comme ça, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est une question probablement bien indiscrète pour commencer cette émission, mais vous avez accepté, Jean-Michel Poirier et Guillaume Loz. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de l'appel, soit, on va dire, des propos généraux, ou soit, si vous sentez de nous le partager, nous dire un petit peu, vous, comment ça s'est passé? Allez, honneur aux anciens, Jean-Michel Poirier.
C'était au cours d'une célébration eucharistique à Notre-Dame de Paris. J'étais étudiant à l'époque sur Paris. Je me rappelle, c'était le cardinal Marty qui terminait son ministère d'archevêque de Paris et qui, ce soir-là, s'est adressé aux jeunes gens, leur disant, je m'adresse notamment aux jeunes hommes parmi vous, est-ce que vous avez songé à la vocation de prêtre? C'est une aventure passionnante. Et je suis rentré chez moi, j'avais à peu près, je pense, dans les 20 ans. Et je me suis dit, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, ça a donné sens à toutes sortes d'expériences fortes que j'avais vécues dans les mois et les années précédentes. Et le lendemain matin, ça m'a paru être comme une évidence. Mais ensuite, il a fallu compter pas mal d'années. Avant que, d'abord il a fallu compter 5 ans avant que j'entre au séminaire. Donc vous voyez, il a fallu une maturation, des confirmations, tout un chemin spirituel. Mais le jour précis, je peux le dater, c'était donc l'appel d'un évêque qui ne m'était pas adressé à moi personnellement, mais c'est dans le cadre liturgique. Et c'était à Notre-Dame de Paris, ce qui fait que lorsque Notre-Dame de Paris a brûlé, ça m'a beaucoup touché.
Je rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez appeler, hein, c'est une émission au cours de laquelle vous avez aussi la parole. Appelez-nous pour commencer, pour nous dire ce que vous avez compris du rôle du prêtre, puisque dans ce début d'émission, c'est ce qu'on va essayer de voir, cette vocation qui n'est pas un métier, loin s'en faut. Un numéro de téléphone, 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Guillaume Loz, c'est pareil, vous avez le choix, propos généraux ou au contraire, précision sur la manière dont vous avez été appelé.
Alors, quand j'étais petit, je voulais être aumônier militaire, comme certains veulent être pompier ou aviateur. Bon, ben, ça m'est complètement passé. J'ai reçu la foi de mes parents. Une fois vivante, j'étais marqué. Et en fait, j'ai eu une épreuve. Moi, j'ai perdu une petite sœur qui avait 7 ans, 8 ans, moi, quand j'étais en les vacances entre la première et la terminale. C'était une grande épreuve. Je me suis posé beaucoup de questions sur le sens de ma vie, sur la souffrance, la mort, on n'a qu'une vie. Il y a eu plein de questionnements, tout un cheminement. Et je me souviens, un moment, j'étais engagé à l'aumônerie étudiante à Toulouse, en droit. Et un soir, on suivait un groupe de gens, d'un syndicat de très à gauche, des étudiants. Je les suis de quelques mètres, ils ont arraché une affiche. C'était de la pub qu'on faisait pour une marche des rameaux à l'époque. Et je ne l'avais pas mis, mais ça aurait pu être moi. Et je n'ai pas pu m'empêcher de dire, mais pourquoi vous faites ça, de les interpeller? Et ils m'ont dit, au nom de l'intolérance. Et en général, on dit au nom de la tolérance, ça fait passer beaucoup de choses. Et dans le groupe, il y avait une femme qui boitait, une jeune fille, et ils m'ont dit, mais pourquoi elle boite? Est-ce que c'est ses parents ou elle qui a péché? J'ai découvert des années après que...
Ils avaient lu l'évangile, dites-moi.
J'ai découvert la référence dans l'évangile dans Saint Jean par rapport à l'aveugle-né, des années après. Moi, sur le moment, je n'ai pas fait gaffe. Et moi, je leur ai dit, ben non, c'est pas Dieu y est pour rien. Si Dieu, c'est celui qui nous aide dans nos épreuves, qui nous donne l'espérance. Et moi, c'était la première fois que je me livrais un peu par rapport au départ de ma sœur. Je dis, moi, j'ai perdu une petite sœur, et c'est le Seigneur qui m'aide, qui m'accompagne. Enfin, voilà, et Dieu nous donne l'espérance, et Dieu nous aime. Et puis bon, j'ai senti qu'ils n'écoutaient pas, qu'il y avait un peu un dialogue de sourds. On a marché quelques pas ensemble. Ils allaient au resto universitaire. Moi, j'allais à l'aumônerie, justement. Je dis, j'aurais bien aimé rester avec vous, mais je vais à l'aumônerie. Ils m'ont dit, va dans ta secte. Et quand, à l'instant où je les ai quittés, j'ai senti intérieurement, je me suis dit, mais ça vaudrait le coup de tout donner pour dire que le Seigneur nous aime et que ce n'est pas un Dieu des philosophes, un Dieu qui vengeur, etc. C'était un moment très important pour moi dans le cheminement, l'affiche arrachée. Après, bon, il y a eu plein de questions, un accompagnement, plein de va-et-vient. Et voilà, puis il y a eu. Voilà, ça c'était un des faits marquants. Et après, parce que j'ai cheminé des années aussi, un autre fait marquant pendant une retraite. Je faisais une retraite vraiment, c'était... parce que j'avais commencé le séminaire, j'avais fait de la vocation.
Allez-y peut-être, mais plus brièvement,
voilà.
Comme ça on peut...
Et j'arrive à une retraite après, j'avais repris le travail au Secours catholique parce que je me posais plein de questions. Et dans la retraite, à un moment, on me dit, est-ce que tu as choisi? Ben, je dis, ben non, je ne voyais pas clair, mais c'est simple, tu fais un tableau, avantage, inconvénient, prêtre, marié. Alors je vois plein d'avantages pour les prêtres, plein d'inconvénients. Avec du recul, j'avais assez bien vu. Plein d'avantages pour le mariage, et je vois aucun inconvénient pour le mariage. Et je me surprends à écrire « Renoncer au désir d'être prêtre ». Là, je me suis dit, si je renonce à ça, c'est qu'il y a, il faut que j'y aille. Voilà, il y a une grande joie intérieure aussi, hein, mais c'était très, voilà.
Voilà, ce qu'on entend, c'est que Dieu a des manières, dans ces cas-là, bien, bien mystérieuses aussi, d'appeler. Probablement que si on écoutait chacun des prêtres, ne serait-ce que du diocèse de Toulouse et des autres diocèses, il y aurait autant d'histoires ou de manières d'être appelé. Peut-être difficile de continuer. Je citerai, c'est un texte que je vais essayer de citer au long de cette émission, c'est « Le pape François vous a adressé une lettre à ses frères prêtres », est-elle intitulée. C'était il y a quelques temps pour le 160e anniversaire de la mort du curé d'Ars, qui est donc, on va dire, le modèle, en tout cas qui est proposé comme modèle aux prêtres et aux curés. Il vous disait, entre autres, dans cette lettre toute sa gratitude à vous qui, comme le curé d'Ars, travaillez dans la tranchée. J'ai bien aimé cette expression. Portez sur vos épaules le poids du jour et de la chaleur et exposé à d'innombrables situations, y prenez des risques quotidiennement et sans vous donner trop d'importance afin de prendre soin du peuple de Dieu et de l'accompagner. Est-ce une... Alors, à cette antenne, ça peut paraître un peu étonnant, mais on va essayer de se mettre à la place de ceux qui sont peut-être loin des réalités d'église. Vocation, métier, malgré tout, tous les jours, vous exercez ce pourquoi vous avez été ordonné. Comment feriez la distinction, Jean-Michel Poirier, vocation, métier ?
Je dirais qu'il y a un aspect métier dans la mesure où il y a un apprentissage. Il faut qu'on se forme. Il faut qu'on exerce, voilà. Donc il y a effectivement un aspect métier qui ne doit pas être négligé. On ne devient pas prêtre comme ça parce qu'on pense l'être et puis hop, on vous balance.
On peut avoir la vocation mais être un mauvais professionnel, c'est à vous entendre.
Voilà, comme exactement. Mais c'est vrai que c'est une vocation dans la mesure où ça prend toute la vie, quoi. On n'est pas prêtre de 8h du matin à 10h le soir et uniquement 5 jours par semaine, je ne sais pas. Enfin bref, on est prêtre tout le temps et on est prêtre par toute sa vie, donc toute sa vie jusqu'à sa mort, si Dieu veut.
Je rappelle, chers auditeurs, hein, vous pouvez nous appeler pour nous dire, pour commencer, ce que vous avez compris du rôle du prêtre, de cette vocation justement particulière, au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Guillaume Lose, si vous arriviez à rattraper ceux qui vous avez comme ça apostrophé de manière étonnamment, en partie inspirée en tout cas des Écritures, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire sur vocation et métier ?
Moi, je trouve, c'est une passion, quoi. Et comme disait Jean-Michel, moi, j'ai pas l'impression d'avoir des horaires de bureau et je suis prêtre entre 9h et 18h. Enfin, j'ai l'impression que ça prend toute ma vie, ça unifie tout, en fait. Et du coup, j'ai du mal à faire la part des choses. Enfin, ça prend tout, mais c'est quelque chose qui est, c'est mystérieux, quoi. Mais par contre, il y a quelque chose qui est beau, parce que je dirais que c'est un très beau métier, sinon. Moi, je dirais ça comme un métier magnifique, mais qui est prenant aussi.
Est-ce que vous avez l'impression que ceux qui ne sont pas chrétiens, j'imagine que vous en rencontrez quand même, à l'image peut-être de... Enfin là, c'est un peu un extrême de ceux qui vous avez apostrophé, ils entrevoient aussi que c'est autre chose qu'un métier, eux aussi.
Oui, ben en fait, ils sont très... Même des gens qui sont athées sont... Moi, j'ai eu des échos, ils sont un peu... Ils sont surpris, ils sont émerveillés, c'est un peu fort, mais plein de respect. Parce qu'il sent qu'il y a vraiment un engagement, quoi.
Jean-Michel Poirier, sur ce sujet, j'imagine que vous en croisez aussi. Est-ce que parfois vous êtes un peu dérouté de la manière dont eux voient que c'est plus qu'un métier ?
Alors moi, je ne suis jamais dérouté, parce que dans ma propre
Pourquoi
famille...
Parce que vous avez 32 ans de sacerdoce et que vous avez, vu beaucoup de choses ?
Oui, il y a d'une part ça, puis d'autre part, dans ma propre famille, je n'étais pas entouré que par des croyants. Et je pense que mes frères, notamment, m'ont formé à tous les arguments anticléricaux possibles et imaginables. Donc, alors après, effectivement, comme Guillaume, il y a des non-croyants, on va dire, qui sont pleins de respect pour l'état de prêtre, enfin, et pour ce que nous sommes.
Qu'est-ce qu'ils respectent, en fait ? Ils voient quoi, justement, on s'arrête là-dessus ? On voit un homme de Dieu, c'est ça ? Ou... Même s'ils savent pas trop ce que c'est.
Je pense que c'est l'engagement de vie qu'ils respectent. Un engagement de vie au nom de convictions que eux, à ce moment-là, perçoivent comme relativement généreuses, on va dire. Et puis, il y a ceux aussi qui nous tombent dessus, mais en réalité, souvent, il y a derrière, dans leur propre histoire, des blessures qu'ils ont reçues de la part de, ou de prêtres ou de l'Église ou de que sais-je. Et donc, à ce moment-là, on devient un paratonnerre.
Les auditeurs sont timides, mais souvent les émissions commencent comme ça, il suffit qu'il y en ait un qui appelle alors que le premier courageusement se lance. Je rappelle le numéro de téléphone 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00. Est-ce que vous avez compris de ce qu'est un prêtre? Avant qu'on fasse une première pause musicale, je voulais que vous reveniez sur les trois fondamentaux qu'on cite souvent à propos des prêtres. Voilà, vous auriez cette vocation pourrait être déclinée avec trois, comme un tabouret à trois pieds. Le service de la parole, de la vie sacramentelle et comment dire, au gouvernement de communautés locales. Jean-Michel Poirier, vous qui êtes enseignant à l'IERP, déclinez-nous, expliquez-nous ce tabouret à trois pieds.
Ça correspond à trois grands axes de la vie de la mission de l'Église et qu'on doit exercer comme prêtre de manière, comment dire, avec des curseurs différents en fonction des ministères que nous avons. C'est évident que moi, par exemple, je ne suis plus aujourd'hui dans le gouvernement, si je puis dire, dans l'animation, mais j'ai été curé de paroisse un certain nombre d'années. J'ai eu à animer des ensembles paroissiaux, tâche que je n'ai plus aujourd'hui, vous voyez. Donc cet aspect-là, personnellement, je l'exerce assez peu. Par contre, je réfléchis, je forme aussi d'autres prêtres pour cela. Et puis, par contre, je serai plus dans le premier pôle aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est effectivement la parole, l'approfondissement de la parole, les raisons de croire. Ça, je dirais que c'est pratiquement ce à quoi je passe le plus clair de mon temps. Et puis, bien sûr, je reste administrateur de sacrement, et ça, c'est indispensable pour un prêtre, et ça le fait vivre. Mais je crois qu'on a besoin, quelque part, des trois pour vivre, nous. Même si, en fonction des circonstances, encore une fois, ça peut varier.
Allez, on fait une première pause et puis on va vous retrouver et puis nos auditeurs vont se décider. Une autre question peut-être qui peut davantage les décrisper ou leur donner envie d'appeler, tout simplement, vous appeler pour poser aux prêtres présents les questions que vous avez envie de leur poser sur leur vie, qui vous intriguent peut-être. Il y a peut-être certains aspects qui vous posent question. Tout le monde ne connaît pas un prêtre et n'a pas l'occasion de parler en toute simplicité avec lui. Je vous propose de le faire ce matin, 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Une vie de prêtre, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Deux prêtres autour du plateau pour nous accompagner dans cette émission et répondre aux questions et aux remarques des auditeurs. Guillaume Lose, prêtre du diocèse de Toulouse et curé de la paroisse Saint-Nicolas et du Sacré-Cœur. Et Jean-Michel Poirier, prêtre du diocèse de Montauban, bibliste et enseignant à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut, au sein de l'Institut catholique de Toulouse. On va reprendre avec un auditeur, en l'occurrence c'est une auditrice, Valentine, qui nous appelle depuis Toulouse. Bonjour Valentine.
Oui, bonjour Emmanuel et bonjour à vos invités.
Merci d'ouvrir le bal et de nous appeler. Alors, vous répondez, semble-t-il, à la première question que j'avais posée, la manière dont vous comprenez leur rôle. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement comment vous définiriez ou vous présenteriez à vos amis, croyants ou pas, ce qu'est un prêtre et son rôle ?
Pour moi, le rôle principal, essentiel du prêtre, et celui qu'aucun laïc ne peut avoir, c'est les sacrements. Je pense que son deuxième rôle, c'est de coordonner une communauté de laïcs qui sont dans sa paroisse en général, ou dans une mission spécifique que lui a confiée l'Église. Et pour le rôle d'évangélisation et de faire connaître Dieu, je pense qu'on est tous autant responsables que lui, d'autant plus qu'il y a de moins en moins de chrétiens, que les gens n'ont pas beaucoup entendu parler de Dieu ou ont des idées toutes faites, disons, et qu'on participe, on doit participer si on le peut et si on a le temps d'apprendre, on doit y participer un peu autant que le prêtre.
Et ben...
Donc, ce que je voulais surtout dire, c'est que pour moi, l'essentiel de son rôle, c'est quand même les sacrements.
La vie sacramentale. Merci beaucoup, Valentine, de nous avoir appelé, d'avoir ouvert le bal de ces questions. Je rappelle le numéro de téléphone auquel les autres auditeurs peuvent appeler, 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Je vais vous laisser réagir et puis je vais rajouter, c'est ma spécialité, une petite question à l'intérieur de la remarque de Valentine. Vous nous avez présenté au début de l'émission, on va dire, on a rappelé les fondamentaux, le gouvernement, le service de la parole, la vie sacramentale. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le concret, parfois on entend certains prêtres dire qu'ils en ont assez d'être vus d'abord comme des distributeurs de sacrements. Les laïcs, aujourd'hui, on peut se dire qu'on pourrait presque vous aider pour le gouvernement des paroisses, parce que parfois on a des compétences, on est fait pour ça. Et puis le ministère de la parole, là aussi, en travaillant un peu, beaucoup d'autres pourraient le faire. Alors, comment réagiriez-vous à toutes ces remarques, Guillaume Lose ?
Ben, tout est important pour le prêtre. Hein. On a besoin on est fait pour annoncer la parole, pour célébrer les sacrements et pour guider la communauté, guider son peuple. Après, moi, ce que je trouve dans la vie sacramentelle, je la vis des deux côtés de la barrière, notamment pour la confession, mais comme prêtre, c'est vrai qu'il y a il y a quelque chose qui est très beau et très nourrissant dans le fait de célébrer les sacrements. J'y pense pour la confession notamment. Je me rends compte que si j'ai pas de séance de confession, que j'ai personne qui vient, il y a quelque chose qui manque. Enfin, c'est bien. Mais après, je trouve que ce qui est le plus compliqué peut-être à vivre, c'est dans le gouvernement de l'Église et d'essayer de faire une communion avec les gens, de les aider à avancer, d'aider les chrétiens justement à être missionnaires là où ils sont, quoi, et d'aider chacun à trouver sa place.
Jean-Michel Poirier, il fut un temps où les trois rôles qu'on décrivait aux prêtres leur étaient dévolus et c'était comme ça. Aujourd'hui, vous êtes un peu bousculé pour le meilleur et pour le pire. Qu'est-ce que vous en diriez ?
Je dirais d'abord que pour les sacrements, il y a toute la préparation aux sacrements. Et là, il y a énormément de laïcs qui sont investis dans la préparation au baptême, dans la préparation, je ne sais pas moi, à la confirmation, dans toutes sortes de la célébration de l'Eucharistie, etc. Donc le prêtre n'est pas isolé. Je rappelle d'autre part que tous les textes, notamment ceux du Concile Vatican II, fixent comme première mission alors à l'évêque et puis ensuite aux prêtres qui sont collaborateurs des évêques, l'annonce de la parole. C'est-à-dire notre première mission et mission prioritaire, c'est l'annonce de la parole. Et alors elle peut s'exercer aussi dans le cadre d'ailleurs, par exemple, de la messe. Et on sait que le pape François...
Alors pourquoi
pour le pape François, l'homélie est un moment extrêmement important et c'est vrai que beaucoup de gens viennent à la messe, entre autres, pour se nourrir de la parole.
Alors juste, pourquoi ça vous est dévolu ce rôle Ah
mais pas nous tout seuls.
Les apôtres sont les successeurs de la proclamation de l'évangile, c'est comme ça qu'il faut le comprendre
Oui, je dirais que c'est la première chose, aller proclamer l'évangile. Et c'est d'abord notre première mission. On n'est pas ni des gestionnaires de communautés ou d'administration, ni des, comme vous disiez tout à l'heure, des distributeurs de sacrements. On est d'abord des évangélisateurs. Mais quels que soient les trois pôles, on n'est jamais tout seul. On est toujours avec des équipes, on est toujours avec d'autres, on forme un seul peuple. Mais c'est vrai qu'on a une mission particulière. Voilà.
Donc on peut vous accompagner, on peut vous suppléer pour tout, sauf pour la célébration de la messe, c'est ça qu'il faut, ou la confession, c'est ça qu'il faut entendre ?
Alors moi je crois que c'est vraiment une mauvaise manière de poser les choses que de penser à l'engagement des laïcs en termes de suppléance du prêtre.
Alors comment faut-il
le comprendre ? C'est-à-dire que, voilà, parce qu'il y aurait moins de prêtres, donc il faudrait qu'il y ait plus de laïcs engagés.
Si tout d'un coup
il y avait plus de prêtres, alors il faudrait que les laïcs rentrent chez eux. Non, c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est pas des vases communicants, alors expliquez-nous.
Non, c'est pas des vases communicants. C'est vrai que l'occasion pour sortir d'une église un peu trop cléricale, c'est certain que ça a été, enfin du moins dans nos pays, la baisse du nombre de prêtres. Mais ce n'est pas la raison fondamentale. La raison fondamentale, c'est que tous les baptisés doivent découvrir leur part active dans la vie de la communauté et dans la mission que le Christ a fixée à son église. Et c'est tous les baptisés qui doivent s'y engager au nom de leur baptême. Et pas simplement pour des raisons de circonstances. Alors après, il faut effectivement que toutes les vocations soient respectées, que tous les ministères s'organisent de façon harmonieuse.
Je rappelle, chers auditeurs, le numéro de téléphone 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Appelez-nous pour nous dire ce que vous comprenez du rôle du prêtre ou les questions que vous auriez à poser autour de la prêtrise. Et puis, même quant à leur simple vie, on va y venir dans un instant. Je voulais peut-être rebondir sur une chose. Je crois que c'est une homélie du cardinal Daniels, qui, si je ne me trompe pas, fut un temps donc archevêque de Bruxelles, bien d'autres personnes auraient pu dire cela, mais à la question, expliquant que c'est une vocation et non pas un métier, disait que la différence, c'est que le pasteur lui donne sa vie. Est-ce que c'est une différence fondamentale ? Vous êtes mis à part et vous donnez votre vie. On peut donner sa vie autrement, mais dites-nous à quelque chose du don de sa vie. Il y a quand même une forme de radicalité, Guillaume Loz, non ?
Il y a une radicalité, mais on donne notre vie, enfin de fait, parce que pour que les gens rencontrent le Seigneur, quoi, et qu'ils vivent une rencontre avec lui, et on est un peu l'intermédiaire entre Dieu et les personnes. Quand on prépare des obsèques, on les écoute avec des laïcs, ou bien en fonction de laïcs nous le dit, on est présent à ce moment difficile de leur vie. Quand ils arrivent avec un petit bébé, on s'émerveille avec eux. Quand ils se marient, on est témoin d'un amour qui nous dépasse aussi. Ça, c'est très beau. Notre rôle, là où on se donne, c'est pour essayer que chaque chrétien vive son baptême et puisse vivre cette rencontre avec le Seigneur et en témoigner autour de lui. Mais il y a quelque chose de prenant dans la mesure où on n'est jamais, c'est qu'on n'est jamais vraiment en repos. Enfin, ça fait partie de notre être, quoi, de notre prière, de... Ça nous préoccupe, quoi. Enfin, moi, ça me préoccupe.
Jean-Michel Poirier, on donne sa vie toujours à quelqu'un. Vous la donnez, quoi, à l'Église. C'est une image qu'il faut reprendre. Votre épouse, c'est l'Église.
Oui, j'aime bien ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on donne toujours sa vie à quelqu'un. Vous la donnez, notamment, à vos enfants, à votre épouse, etc.
Oui, je vous montre ma bague, que vous n'ayez pas de
doute. Voilà, et donc, je crois qu'on est tous appelés à donner notre vie. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on la donne dans le ministère propre du Christ pasteur. Et c'est notre spécificité. Et c'est vrai que, comme on le disait au début de l'émission, ça nous prend totalement.
Dans le ministère du Christ pasteur,
c'est-à-dire que le prêtre est configuré, techniquement parlant, il représente le Christ pasteur dans la communauté. Voilà. Et donc, il est le pasteur, il représente le Christ pasteur, il agit comme Christ, comme un autre Christ, enfin, ou à la place, pas à la place, mais il signifie, il est la partie visible du Christ pasteur. Hein. Mais il y a le Christ serviteur, ça c'est plutôt le ministère du diacre, et puis le Christ a tellement de faces, j'allais dire, que tout le monde a, quelque part, est configuré au Christ, mais nous plus particulièrement au Christ pasteur. Et c'est vrai que ça requiert, d'une certaine façon, c'est pas simplement notre temps, parce que on a aussi du temps qu'on passe à autre chose. Hein. Il faut aussi du temps libre, il faut aussi des respirations.
Mais il faut tout
donner. Mais il faut, voilà. Ça nous prend entièrement. Voilà.
Je rappelle le numéro de téléphone, chers auditeurs, vous êtes timide aujourd'hui, 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. On va rentrer peut-être dans une partie de l'émission plus simple, qui vous sentirez davantage autorisé à leur poser des questions. Dites-vous que là, c'est comme si vous aviez des prêtres avec qui sont disposés à vous livrer peut-être des choses plus personnelles quand parfois vous avez du mal à le faire avec votre curé. Tout le monde n'est pas intime. D'un prêtre. 05 62 48 63 00. À quoi ressemblent vos journées? Voilà, je voulais vous lancer un peu là-dessus. Comme ça, ça va nous aider aussi à atterrir. Guillaume Lose, le matin, qu'est-ce que vous faites du matin au soir? Alors, peut-être pas dans le détail, minute par minute, mais décrivez-nous une journée type si par hasard il y en a une.
Alors, c'est difficile d'avoir une journée type, mais en gros, le matin, je me lève, je prends ma douche. Si je suis pas à la bourre, je me rase. Je prends du temps pour lire la parole de Dieu, pour prier. J'essaie de prendre une heure chaque matin. Après, je petit déjeune en écoutant Radio Présence ou en partageant avec le séminariste qui me raconte ses affaires. Après, on prie les laudes. Et puis après, je démarre la journée. Alors, voilà, ça dépend. Hein, c'est vraiment variable entre des obsèques, une réunion, une visite. Voilà. Là, aujourd'hui, j'ai des obsèques juste après l'émission. Après, je rentre déjeuner. Souvent je partage le repas avec un autre prêtre qui vit avec moi, donc on a une petite fraternelle, on prie le milieu du jour. J'ai d'autres activités l'après-midi et le soir c'est souvent un peu la course, mais j'ai toujours la messe le soir moi, et après je dîne et puis j'ai toujours des réunions. C'est rare que j'ai rien le soir.
Regardez pas la télé le soir.
Non, moi je regarde pas la télé, d'ailleurs je l'ai pas, c'est plus simple.
Donc l'amplitude horaire, si c'est pas indiscret, c'est lever 6h, coucher 23h.
Alors moi le lever ça oscille entre 6h30 et 7h30, 8h. J'essaie de m'ajuster et le coucher ça oscille entre minuit et 1h30. Enfin il faut, c'est pas bien. Pas bien.
Qu'est-ce qu'il y a comme gros bloc du coup? Vous entendez, il y a un bloc prière, il y a un bloc, j'ai envie de dire, vie tout court, repas et autre chose, comme tout à chacun. Et le reste, c'est quoi? C'est activité pastorale,
après,
tout simplement?
Voilà, oui, après, c'est la pastorale, la rencontre des gens, les sollicitations pour s'il y a des travaux dans l'église, la préparation des sacrements, des homélies, tous les imprévus qui peuvent arriver, beaucoup de rencontres. Mais il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas de routine du tout, hein, ça c'est extraordinaire. Et par contre, le lundi, c'est toujours un jour de repos pour moi, enfin, j'ai des choses sacrales. Enfin,
c'est en général le jour de repos pour les
voilà, prêtres. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que moi le dimanche soir, je rentre dans ma famille, je vois mes parents, parfois on prie ensemble, j'échange un peu les nouvelles. Le lundi, je dors un peu plus, je vais dans une abbaye à Sainte-Marie-du-Désert, le plus souvent, et puis parfois je rentre plutôt pour une réunion, mais le lundi, j'aime bien prendre un temps pour relire ma semaine, pour me promener ou pour lire, voilà, c'est important ça.
Jean-Michel Poirier, on entend que Guillaume Lose ne s'ennuie jamais, heureux homme. Malgré tout, on peut aussi fantasmer un peu la vie des prêtres. Imaginez que vous avez une vie vraiment très à part, très extraordinaire. Vous avez aussi, vous, tout simplement un quotidien qui a aussi ses répétitions.
Alors quand j'étais en paroisse, effectivement, ma vie ressemblait beaucoup à celle que vient de décrire Guillaume, avec notamment pratiquement toutes les soirées qui étaient occupées. Et alors c'est vrai que depuis 1997, j'ai aussi une vie d'enseignant et que j'ai longtemps mené les deux en parallèle, si bien que les jours de congé dans la semaine, pendant des années, je ne les ai pas connus. Jusqu'à ce qu'en 2015, je crois, je fasse le fameux burn-out. Ou en 2014, je ne sais plus. C'est 2014.
On dit que ça arrive à beaucoup de prêtres. Hein,
en 2014, voilà, où j'étais obligé de m'arrêter pendant 3-4 mois parce que j'étais épuisé. Il faut dire, je finissais de rédiger ma thèse en même temps. Donc, non seulement je n'avais pas de jour de congé dans la semaine, mais en plus, je n'avais pas de vacances, de véritables vacances. Et alors, bon, aujourd'hui, je suis enseignant. Donc, je dirais que... Là, je partage mon temps entre enseignant-chercheur. Donc, je partage mon temps entre les cours, tout le travail administratif, pédagogique, les sessions, etc., que je peux organiser ou mener. Il y a aussi le travail de recherche, qui est absolument passionnant et qui demande beaucoup de temps, mais des temps très solitaires. Donc, moi, c'est une vie un peu différente, très solitaire. Il y a, Dieu merci, le week-end, les activités en paroisse. Je suis maintenant actif sur un secteur pastoral au nord de Toulouse. Puis j'ajouterai, moi, le sport. Pour moi, c'est la natation. Et donc, je suis inscrit dans un club de natation à Toulouse. Je compte de temps en temps, d'ailleurs, C'est un scoop, je croise Monseigneur Le Gall.
J'allais le dire, mais...
Voilà, bien que je le...
On ne va pas parler souvent, à sa place, allez-y, finissez, on parle
souvent. Et donc, voilà, j'essaie de me ménager des plages de 2 heures où je vais nager pendant... Moi, quand je nage, c'est à peu près 1h15. Je nage pendant 1h15, dont 2 matins par semaine, très tôt. Et voilà, et donc, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable aujourd'hui pour avoir un équilibre de vie.
Je rappelle le numéro de téléphone, chers auditeurs, 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Ne me dites pas que vous n'avez pas envie de poser des questions à vos prêtres. Dans le document que j'ai cité un petit peu plus tôt dans l'émission, cette lettre à ses frères prêtres que le pape François vous a adressée, à l'occasion du 160e anniversaire de la mort du curé d'Ars, il y a un passage que je ne retrouve pas, où il disait que la prière est un véritable protagoniste. J'aimerais que vous nous parliez un peu plus de la prière. La prière, Guillaume Lo, c'est quoi ? C'est juste le temps de respiration le matin avant que de vous prendre l'armoire du programme de la journée sur la figure pour arriver à faire face. La prière comme un protagoniste, qu'est-ce que ça vous évoque ?
C'est plutôt un lieu de repos, mais aussi d'inspiration, d'accueillir la parole de Dieu pour recevoir quelque chose pour moi aujourd'hui, pour ma mission. Puis parfois, c'est des lieux où je sais que j'ai tel besoin, j'ai des visages qui arrivent en me disant, tiens, il faut peut-être que je les appelle. Enfin, c'est un lieu de...
C'est un lieu où Dieu vous parle, c'est ça, tout simplement ?
Oui, enfin, je l'interprète comme ça, en tous les cas.
Voilà. On espère quand même que Dieu vous parle, sinon...
Mais bon, ils ne parlent pas comme un coup de fil, quoi. Il faut que je décrypte. Donc il y a du temps, moi je prends du temps parce que la parole de Dieu, par exemple, j'ai besoin de lire les notes, d'essayer de comprendre le texte dans son ensemble avant de voir pour moi. C'est pour ça que j'ai un peu rallongé le temps, parce que sinon c'était ça qui zappait, le temps un peu... puis un temps personnel pour rendre quelque chose pour moi. Et après, il y a la prière aussi pour... c'est important par rapport à... En fait, moi, ma question, ma demande, c'est toujours, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté, quoi, pour guider ton peuple. Je répète ça tous les matins, tous les soirs, ça m'habite. Parfois, je dis aussi, envoie-moi des collaborateurs selon ton cœur. Alors, je dis, aide-moi, donne-moi la joie malgré les limites, ou donne-moi d'accepter mes limites avec confiance. Enfin, j'ai des choses qui reviennent, je me rends compte dans la prière. Et quelque chose qui me nourrit beaucoup aussi, c'est le soir. Alors, c'est plus dur quand on est fatigué à la fin d'une journée, mais c'est l'action de grâce. Enfin, c'est relire ma journée et penser aux belles choses que j'ai vues, que les personnes que j'ai rencontrées, ce qui m'a donné de la joie, où j'ai vu l'œuvre de Dieu, parce que parfois c'est même dans des choses difficiles, mais on voit Dieu à l'œuvre, la foi des gens. Moi, ça me nourrit énormément, là.
Jean-Michel Poirier, alors on va prendre une auditrice et puis vous pourrez répondre, faire d'une pierre deux coups peut-être. Bernadette, vous nous appelez de Tarbes, bonjour.
Vous nous appelez de Tarbes, bonjour.
Oui,
alors, bonjour. Il y a beaucoup d'écho, c'est pas grave, comme ça on entendra deux fois ma question. Dites-nous ce que vous vouliez nous partager.
Eh bien, je voulais vous dire que si souvent...
Parlez bien près du combiné, parlez bien près du combiné, allez-y.
Oui, là ça va ?
Allez-y, on vous écoute.
Bon, donc c'est sur une solitude des prêtres. Bon, je ne mets pas du tout en cause le célibat, si ce n'est que par rapport à la génération précédente, les prêtres étaient... souvent rituellement invités le dimanche à la table de leurs paroissiens. Il y avait un contact, matériel, affectif, que l'on retrouve encore un peu, par exemple, au Pays Basque. Je me demande comment de jeunes prêtres, en particulier dans les campagnes, vivent une certaine solitude, matériel. Voilà.
Merci beaucoup Bernadette de nous avoir appelé. Je rappelle, vous appeliez de Tarbes, et d'autres auditeurs peuvent appeler pour partager comme ça en toute simplicité ces questions importantes. Et puis, qui n'a pas pensé à ça en sortant parfois de la messe ? Un numéro de téléphone, 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Alors, la solitude, il y a plein de questions derrière ça. Allez, je vais pas les poser à votre place ni à la place de Bernadette. Qu'est-ce que ça vous évoque, Jean-Michel Poirier, cette remarque de Bernadette ?
D'abord, je crois qu'il y a une part de solitude dans toute existence. Pour avoir entendu de nombreuses confidences, si je puis dire, de personnes mariées, par exemple, il peut y avoir aussi de la solitude dans une vie familiale. Il peut y avoir, voilà. Ensuite, je crois qu'il y a une part de solitude positive, essentielle, qui est précisément ce temps pour nous où on est seul avec Dieu. Et qui, on voit Jésus de temps en temps qui sort, qui quitte Capharnaüm, qui monte sur la montagne, qui se détache un peu des disciples. Et je crois que la solitude, moi je l'accueille parfois, enfin même souvent, la plupart du temps, comme une grâce.
Donc c'est une manière de vous renvoyer à cette intimité quelque part, cette solitude.
Exactement. Alors ensuite, il y a effectivement des moments de solitude parce que effectivement, on n'est pas... On vit seul, enfin en tout cas moi je vis seul, enfin j'ai un chien mais enfin c'est pas avec lui que je vais dialoguer même s'il est très présent, mais effectivement il y a de temps en temps des parts de solitude et qui peuvent être douloureuses, notamment lorsque ça m'est arrivé de me trouver dans des jours de fête où voilà, après avoir salué tous les paroissiens, je me retrouvais tout seul chez moi. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile à vivre. Alors c'est à nous aussi peut-être à parfois savoir frapper à des portes.
Hein. Est-ce que c'est particulièrement difficile quand on est dans le monde rural? C'est ce que disait cette dame.
Moi, je crois que c'est vrai. J'aurais presque envie de lui dire à cette dame... Moi, dans les ministères où j'ai été en rural, il y avait plus de gens qui m'invitaient que lorsque j'étais en ville. Donc, vous voyez, c'est pas forcément les prêtres qui sont en rural, enfin, dans le milieu rural, seront plus solitaires qu'on peut être. À mon avis, même la solitude dans les villes est plus importante, je parle pour les gens en général, hein, que dans le milieu rural. En fait, elle peut être partout. Voilà.
Hier, on recevait la mission catholique italienne de Toulouse. Et là, le prêtre n'avait pas l'air de se plaindre d'être seul. On sentait qu'il était quand même souvent invité pour des festivités, pour bien des repas.
Pour la Pâque.
Donc, faites-en de même et puis ils auront la liberté de vous dire non. Je rappelle le numéro de téléphone pour cette émission. Vous pouvez poser vos questions au prêtre présent. Cette émission, une vie de prêtre, 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. On fait une deuxième pause. Courte pause et puis justement on évoquera, vous nous partagerez peut-être l'une ou l'autre des difficultés, si vous voulez, des joies particulières à cette vocation.
Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Une vie de prêtre, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient autour du plateau, Guillaume Loz, prêtre du diocèse de Toulouse, et Jean-Michel Poirier du diocèse de Montauban. Jean-Michel Poirier, par ailleurs, enseignant à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales. Alors, les auditeurs sont un peu timides ce matin. On va parler à leur place, puisqu'il y en a deux qui nous ont appelés, mais ils ne souhaitaient pas passer à l'antenne, où on les a perdus. Maria de Montauban, elle voudrait faire comprendre aux chrétiens et croyants que le prêtre est indispensable autant qu'un maire pour sa ville, dit-elle. Et Geneviève de Toulouse, pour elle, le prêtre est là pour recevoir le Christ vivant dans ses mains. Il est relié au ciel, il relie les fidèles. À la fin de cette émission, je voulais vous demander une grande joie et puis peut-être une peine, pas forcément grande celle-là, à vous de choisir, pour nous aider à mieux vous comprendre et à comprendre ce qui fait votre vie. Guillaume Loz.
Moi, ce qui me donne beaucoup de joie, c'est voir la foi à l'œuvre chez les gens et voir l'œuvre de l'Esprit-Saint. Alors, concrètement, sur la paroisse, on a 11 personnes qui demandent le baptême, 11 qui demandent la confirmation ou la communion entre 19 et 60 ans. Et la grande marge, c'est 22, 30, 32 ans, quoi.
Qu'est-ce qui vous émerveille tant là-dedans?
Nous, on fait plein de plans pour raccrocher les gens, mais eux, ils viennent naturellement sans qu'on ait fait de plans pastoraux, quoi. On recueille les fruits de l'action de Dieu à travers les gens. C'est mystérieux.
Donc ça, c'est la grande joie.
Ça, c'est la grande joie.
La peine, peut-être.
Et la peine, c'est plutôt le manque de temps. Parce que je vois bien, il y a des gens, ils aimeraient plus bénéficier du prêtre. Moi, j'aimerais être plus présent, mais on a du mal à pouvoir honorer toutes les demandes. Voilà, c'est la gestion du temps, c'est pas facile.
Voilà. Il faudrait que vous soyez plusieurs pour faire ce que vous faites, ou c'est que vous aimeriez qu'on vous apprenne à gérer le temps, ou c'est que de toute façon il y a une injonction contradictoire.
De toute façon, je pense que j'aurais toujours un souci à gérer le temps, mais voilà, c'est pouvoir honorer les demandes et en même temps parfois ou dire non à certaines choses qui sont moins importantes pour être plus proche des gens parfois par des questions administratives qui nous cassent les pieds ou des demandes qui sont importantes pour les gens mais pas pour nous. Enfin voilà, c'est pas évident de bien
articuler ça. Est-ce que le burn-out, c'est une inquiétude quand on est jeune prêtre? Parce que c'est quand même ce qu'on lit souvent, semble-t-il. C'est l'impression que c'est comme une épée de Damoclès sur la vie de tout jeune prêtre.
On sent qu'on n'est pas à l'abri, mais je me dis c'est pour ça qu'il faut que je tienne mon lundi et que je sanctuarise. Enfin, le matin, mon téléphone, je l'ouvre quand j'ai vraiment fini mon rite du matin, quoi. Mais je peux l'ouvrir tard, mais voilà, il n'est pas allumé, quoi.
Jean-Michel Poirier, je rappelle aux auditeurs qui par hasard voudraient ne pas être aussi timides qu'au long de cette émission, un numéro de téléphone, les questions que vous souhaitez poser aux prêtres présents, des choses que vous voulez leur dire, aussi tout simplement témoigner de l'attachement que vous avez aux prêtres, 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Jean-Michel Poirier, une grande joie et une peine, quelle serait-elle pour finir?
Alors, la grande joie, c'est lorsque des cœurs s'ouvrent, lorsqu'il y a des ouvertures qui se passent dans le cadre du ministère. Et je pense notamment à des journées du pardon. J'ai eu l'occasion à Montauban et à Moissac d'organiser des journées du pardon. Et je me rappelle d'une journée du pardon à Moissac où la moitié des personnes que j'ai rencontrées, je passais toute la journée à rencontrer des personnes, donc pour le sacrement de la réconciliation, mais aussi pour... La moitié des personnes étaient reparties en pleurant. Alors, c'est une grande joie de pleurer, mais parce qu'il y avait quelque chose qui s'était déverrouillé, parce qu'ils avaient pu poser, dire des choses qu'ils n'avaient jamais pu dire, etc. Et ils repartaient finalement avec une certaine paix. Donc ça, pour moi, voir des cœurs s'ouvrir, voir de la lumière s'infiltrer à l'intérieur, voir de la paix s'installer, pour moi, c'est une joie ineffable, ça. Ensuite, les difficultés, les deux années les plus difficiles de mon ministère, ça a été... parce que j'ai cessé d'avoir une charge pastorale dans mon diocèse et que pendant 2 ans, pratiquement, on ne me demandait quasiment rien comme prêtre, spécifiquement, ni le dimanche, ni rien. Et là, on a l'impression de servir à rien. Et ça a été pour moi une véritable traversée du désert. Mais bon, j'en suis sorti, merci.
Donc ça, c'était une souffrance qui était liée à des circonstances. Est-ce qu'il y a une difficulté qui est liée tout simplement à la vie de prêtre, une chose que vous voudriez souligner, que les auditeurs, qu'on en prenne conscience?
La difficulté, c'est qu'on ait le sentiment de ne plus servir à rien, mais ça, j'imagine. Et je me demande justement, ça pour le coup, moi, c'est mon inquiétude, c'est pas encore celle de Guillaume, parce qu'il a beaucoup d'années, mais c'est lorsque je serai très âgé, enfin, si Dieu me mène jusqu'à cet âge-là. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir eu la simplicité de venir nous partager tout ça. Voilà. Et puis, merci aux auditeurs qui ont eu le courage d'appeler. Je prends ma part. Peut-être faut-il vous inviter davantage à témoigner plutôt qu'à poser vos questions à l'antenne. Bref, on travaillera ça. Je reciterai tout simplement le texte que j'ai cité en début de cette émission. On aurait pu citer bien d'autres passages. Cette lettre que François a adressée à ses frères prêtres. Donc, c'était en août dernier, à l'occasion de l'anniversaire de la mort du curé d'Ars, disant toute sa gratitude à vous qui, comme le curé d'Ars, travaillez dans la tranchée, portez sur vos épaules le poids du jour et de la chaleur, exposés à d'innombrables situations, y prenez des risques, entre guillemets, quotidiennement et sans vous donner trop d'importance. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry avec l'aide de Francky Guéret. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.